VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mercredi 13 janvier 2016 à la une ce soir.
Au Burundi, la crise s'accentue, deux déserteurs tués, des tirs de grenades dans la nuit et des arrestations multiples.
Plusieurs jeunes sont quotidiennement arrêtés par la police qui indique que certains d'entre eux sont de connivence avec les criminels.
Dans l'extrême nord du Cameroun, une attaque portant la marque des salafistes nigérians fait 12 morts.
Au Niger, arrestation de plusieurs militaires et d'un civil dans l'affaire du putsch avorté de décembre, également cité l'opposant Ama Amadou.
Au moins 4 des 10 militaires arrêtés, dont le présumé chef, ont avoué et demandent la clémence.
Une crise évitée entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran libère 10 marins américains arrêtés cette semaine.
Et nous reviendrons sur le dernier discours de Barack Obama sur l'état de l'Union.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nous ouvrons au Burundi, où deux déserteurs de l'armée, qualifiés de criminels par la police, ont été tués la nuit dernière dans le centre du pays. Par ailleurs, cette nuit était ponctuée par des lancements de grenades et des tirs à l'arme automatique dans le quartier de Bouiza, où 3 grenades ont été lancées dans un bistrot sans faire de dégâts. On rapporte aussi plusieurs arrestations de jeunes Burundais. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
Pierre Mouriquier, porte-parole de la police, a indiqué que 2 militaires déserteurs ont été tués très tôt ce matin dans la province de Muramvya, en zone de Gerusera. Leur chauffeur a été arrêté. D'après ce porte-parole, ces criminels se dirigeaient au centre du Burundi quand ils ont abandonné leur voiture pour se diriger dans la forêt près de la même zone Nyarusera. Ensemble, avec la population, des militaires ont poursuivi ces malfrats et les ont tués. Leur chauffeur est entre les mains de la police pour interrogatoire. En outre, selon la même source, 2 bombes RPG-7, une Kalachnikov et 3 chargeurs ont été trouvés dans la voiture du capitaine Saïd Naira Adja et du brigadier tué. Par ailleurs, un corps sans vie a été retrouvé ce mercredi matin dans le quartier contestataire de Jabé, au centre de la capitale. Encore ce matin, les quartiers Mutakura et Chibitoke étaient encerclés par des militaires et des policiers. 3 grenades ont également été entendues selon la population de la localité. Plusieurs dizaines de jeunes auraient été arrêtés. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. 12 fidèles ont été tués dans une mosquée pendant la prière du matin. Cet énième attentat porte la marque de Boko Haram. Mali Segel nous en dit plus.
Les fidèles musulmans étaient rassemblés dans la petite mosquée du village de Kouyapé lorsqu'un kamikaze a actionné sa charge explosive en pleine prière. Parmi les 12 victimes, l'imam de la mosquée. Les chefs traditionnels sont souvent des cibles d'attaque à cause du fait de leur hostilité au djihadisme. L'extrême nord du Cameroun, à la frontière du Nigeria, est une zone où Boko Haram mène régulièrement des attentats. Le Cameroun dit avoir renforcé sa présence militaire le long de la frontière nigérienne dans le cadre de la coalition régionale qui combat les islamistes. Dans plusieurs régions du Cameroun, les autorités ont banni le port du voile intégral. Les attentats suicides sont en effet souvent commis par des jeunes femmes qui dissimulent des ceintures d'explosifs sous leur voile. Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram a fait au moins 17 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.
Résultat des législatives en Centrafrique. Selon les données globales, mais provisoires, fournies par l'Autorité nationale des élections, seulement une vingtaine de candidats ont obtenu la majorité absolue. À travers le pays, ils étaient plus de 1600 à briguer un poste au Parlement. On fait le point avec Freeman Sipila.
22 candidats, dont 3 femmes, tous de l'intérieur du pays, ont obtenu la majorité absolue au premier tour. 2 candidats par circonscription sont quant à eux qualifiés pour le second tour de ces élections à Bangui et dans certaines régions du pays. Le rapporteur général et porte-parole de l'Autorité nationale des élections, Julius Rufengwadebaba, a indiqué que les candidats ou les électeurs qui ne se reconnaissent pas dans ces résultats provisoires ont jusqu'à 5 jours pour adresser leur requête à la Cour constitutionnelle de transition. Dans un communiqué de presse publié mardi soir à Bangui, l'Autorité nationale des élections affirme disposer désormais des clés USB contenant les résultats de l'élection présidentielle de chaque bureau de vote. Des supports qui pourront être retirés par les mandataires des 30 candidats à la présidentielle, précise le communiqué. Entre-temps, les oreilles sont toujours tendues vers la Cour constitutionnelle de transition pour les résultats définitifs du premier tour du scrutin présidentiel du 30 décembre 2015. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et concernant la RCA toujours, le Gabon annonce l'ouverture d'une enquête après de nouvelles accusations d'abus sexuels en Centrafrique. Des casques bleus gabonais sont pointés du doigt. Les victimes présumées sont quatre fillettes soumises à des abus sexuels et une exploitation sexuelle à Bangui par des soldats participant à la mission de l'ONU en RCA, la MINUSCA.
Nouveau gouvernement au Burkina Faso, le président Rokma Christian Kabore a formé une équipe de 29 ministres. Il assume lui-même les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce gouvernement est dirigé par le premier ministre Paul Kabatieba, un économiste. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
12 militaires et un civil ont été arrêtés au Niger dans le cadre du putsch manqué que les autorités disent avoir déjoué à la mi-décembre. Amamadou, ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle du mois prochain, est lui aussi cité dans cette affaire. C'est ce qui ressort d'un point presse animé ce matin par le ministre de la Défense, Karidjo Mamadou. Détail avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le dossier sera transmis au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire devant lequel les 10 militaires, les 2 gardes nationaux et un civil dont les responsabilités ont formellement été établies vont comparaître. Une liste de 10 autres officiers retrouvés chez le chef présumé des putschistes est également en traitement, tout comme celle de la dizaine de civils et des 3 douaniers arrêtés récemment. S'agissant du refus opposé aux avocats des prévenus de voir leurs clients, le ministre a invoqué une disposition du code de procédure devant le tribunal militaire qui veut que seuls des avocats inscrits sur une liste dressée annuellement par les autorités judiciaires et militaires du Niger peuvent les assister. Le ministre de la Défense a enfin annoncé que l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain, Hama Amadou, est bel et bien cité dans cette affaire. Il a déjà été entendu et il le sera encore au besoin de l'enquête. Seulement, il n'a pas été arrêté puisqu'il est déjà privé de sa liberté, a conclu Karidjo Mamadou. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali, le principal parti d'opposition, l'Union pour la République et la Démocratie, dénonce des menaces de mort visant un de ses responsables, Abdoul Malik Diallo. Le député avait évoqué des fraudes au profit du candidat du pouvoir lors d'une élection législative partielle dans la région de Gao.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé sa gratitude aux autorités iraniennes après la libération rapide de 10 marins arrêtés la veille dans les eaux territoriales de l'Iran. Nathalie Barge.
Après avoir présenté des excuses, ils ont été libérés dans les eaux internationales car il s'est avéré que leur entrée dans les eaux territoriales du pays n'était pas intentionnelle, ont annoncé les gardiens de la Révolution. L'US Navy va enquêter sur les circonstances qui ont mené à la présence des marins en Iran, a déclaré le Pentagone. Les États-Unis avaient annoncé mardi soir avoir perdu le contact avec 2 petits navires militaires qui naviguaient entre le Koweït et Bahreïn. L'Iran avait ensuite confirmé dans la nuit l'arraisonnement des 2 navires et précisé que les marins étaient en bonne santé. Avant leur libération ce matin, l'amiral Ali Fadavi, commandant des forces navales iraniennes, a affirmé que l'action des Américains n'était pas hostile. Il a ajouté que les 2 navires ont pénétré dans les eaux iraniennes en raison d'une panne de leur système de navigation.
Un tribunal militaire dans la bande de Gaza a annoncé avoir condamné à la peine de mort 4 Palestiniens accusés d'espionnage au profit d'Israël. On leur reproche d'avoir livré des informations sur les véhicules ou les domiciles de Palestiniens pour aider Israël à les assassiner. L'un des accusés a été condamné en personne et les 3 autres par contumace. Israël et le mouvement islamiste Hamas observent un cessez-le-feu tendu depuis leur 3e guerre en juillet août 2014.
Et par ailleurs, un Palestinien a été tué et 3 autres ont été blessés aujourd'hui par un raid aérien israélien dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a confirmé le raid, précisant que la cible était une cellule terroriste. Cette dernière se préparait, selon Israël, à placer une charge explosive contre des soldats en poste à la frontière nord de Gaza.
Attentat suicide dans le sud-ouest du Pakistan. Les autorités locales font état de 15 personnes tuées. La cible était un centre anti-polio où se déroule une campagne de vaccination. La plupart des victimes sont des policiers, indiquent Washington de même source. Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de l'attentat mené par un kamikaze ce mercredi matin.
En Afghanistan, une attaque près du consulat du Pakistan à Jalalabad, dans l'est du pays, a fait 7 morts et 10 blessés. 3 des blessés sont des civils. Des militants du groupe État islamique affirment avoir mené cette attaque que le gouvernement pakistanais a vivement condamnée.
La sœur du blogueur saoudien Raif Badawi, condamné par Riyad à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, le blogueur, sa sœur a été libérée aujourd'hui après avoir été brièvement arrêtée et interrogée par la police saoudienne. C'est ce que rapporte l'AFP, qui cite Human Rights Watch.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La Chambre de commerce américaine tiendra à Addis Abeba le 10e sommet biennal entre le 1er et le 4 février prochain. Plus de 1000 participants, dont des représentants d'entreprises, des gouvernements, des entrepreneurs et des investisseurs, des décideurs et des gestionnaires de toute l'Afrique, des États-Unis ou d'ailleurs, sont attendus dans la capitale éthiopienne pour promouvoir directement leur marque. Ils devront aussi identifier les défis et discuter des solutions sur les investissements du secteur privé. La Banque centrale du Nigeria a levé les restrictions sur les dépôts de devises. Hier, le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, avait annoncé l'arrêt de la vente de devises aux opérateurs des bureaux de change pour préserver les réserves. Monsieur Emefiele accuse certains opérateurs d'activités malhonnêtes. La Banque centrale, qui vend normalement 60 000 dollars par semaine à chaque bureau de change, avait réduit son montant de 10 000 dollars. Le Nigeria injecte annuellement 8,6 milliards de dollars dans ses bureaux de change. Et enfin, la déroute des prix des hydrocarbures n'épargne pas la Russie, dont la majorité des revenus provient de l'or noir. Le gouvernement de Vladimir Poutine a donc décidé de réduire de 10% ses dépenses budgétaires et privatiser les actifs de l'État. Le brusque effondrement des cours du pétrole a fait tomber à l'eau l'attente d'une reprise économique cette année, après la profonde récession de l'an dernier.
La Minute Éco, merci Eric.
Et pour l'actualité sportive, Bagassi Koura est déjà en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Pierre Lechantre, nouveau sélectionneur du Congo-Brazzaville.
Et le technicien français dernièrement en poste à l'Itia de Tripoli succède à son compatriote Claude Leroy, parti en fin d'année dernière. Âgé de 64 ans, le natif de Lille en France s'est engagé jusqu'en juin 2019, selon Foot Africa qui rapporte l'info. Ancien sélectionneur du Cameroun et du Mali, Lechantre a été préféré à ses compatriotes Didier Six et Jacques Santini ainsi qu'aux Allemands Gernot Rohr et Wilfried Schaeffer. Il est attendu dans les prochains jours à Brazzaville pour entamer son travail à la tête des quarts finalistes de la CAN 2015.
Et le Rwanda qui se dit prêt pour le CHAN 2016.
Oui, tout est prêt au Rwanda pour accueillir à partir de samedi l'édition 2016 du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. C'est l'assurance donnée par le président de la FERWAFA, la Fédération Rwandaise de Football, et du comité local d'organisation Vincent Nzamuwita. Samedi, un match d'ouverture chez Rubin, les Amavubi du Rwanda, les guêpes en langue locale, comme on dit, affronteront les éléphants de Côte d'Ivoire.
Et Neymar est devant la justice pour escroquerie. Qu'est-ce qu'il a fait?
Oui, la superstar brésilienne est convoquée devant un juge. Ce sera le 2 février en vue de sa mise en examen pour escroquerie et corruption dans le cadre de son transfert controversé de Santos au FC Barcelone à l'été 2013. Lundi, l'attaquant de 23 ans, on se souvient, était désigné 3e meilleur joueur du monde en 2015 lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Eh bien, cette récompense laisse ce mercredi place à la menace.
Parlons de corruption à la FIFA, Bagassi. Le secrétaire général démis de ses fonctions.
Oui, le français Jérôme Valque a été démis de ses fonctions selon un communiqué de la FIFA. La semaine dernière, 9 ans de suspension avaient été requis contre M. Valque par la chambre d'investigation de la commission d'éthique de l'instance internationale qui lui reproche d'avoir violé le code éthique de la FIFA. Jérôme Valque est soupçonné d'avoir participé à un vaste système de corruption dans un système de revente de billets du Mondial 2014.
Et 8 matchs dans la NBA hier soir, Bagassi, disons tout simplement que mon équipe l'équipe San Antonio a gagné face à Detroit. Merci pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, Washington.
Oui, la capitale fédérale des États-Unis, suite au discours sur l'état de l'Union prononcé hier soir par le président Barack Obama. Eh bien, les réactions sont nombreuses. Anastasie Tudiech a d'abord recueilli celle de Rachel Decoste de Huffington Post.
Je pense que les Américains savent aujourd'hui qu'ils ont fait des erreurs en envahissant le Vietnam dans les années 60-70 et la guerre en Irak qui leur a coûté plusieurs vies et beaucoup d'argent. Et ils ne sont pas prêts à se relancer pour aucune raison dans une autre lancée guerrière. Et puis en même temps, Obama a fait appel aux politiciens de ne pas réduire leur discours à l'islamophobie et le racisme.
On a vraiment senti là qu'il rendait coup pour coup à Donald Trump.
Mais je pense que Donald Trump est avisé et puis il y a beaucoup d'autres républicains qui font le même discours. Effectivement, je pense qu'il veut rappeler les Américains leur passé, leur culture, leurs valeurs d'égalité et surtout de respect dans la diversité qui fait la force du pays.
Alors, il faut dire que M. Obama, dans son discours, s'est appesanti aussi sur le Moyen-Orient et le groupe État islamique. Anastasie a parlé à Émile Baroudi, un journaliste basé ici à Washington.
Il était très clair. Pour lui, Daesh ne menace pas les États-Unis, mais elle menace la vie de citoyens américains. Il garde cet aspect terroriste de Daesh. Il ne la compare pas à vraiment un État qui pourrait mettre en danger l'État des États-Unis. Il a aussi rappelé que l'État islamique veut faire croire qu'ils peuvent détruire les États-Unis. Il les a remis un peu à leur place en les accusant de vouloir se faire les représentants de toute une religion. Il a rappelé aussi les actions militaires que les États-Unis prennent actuellement contre Daesh. Le bombardement aérien des zones pétrolières, l'entraînement de forces locales pour reprendre du terrain à Daesh, que ce soit en Syrie ou en Irak. Et même, il a un peu défier le Congrès. S'ils n'aiment pas ce qu'il fait, s'ils trouvent que c'est insuffisant, ils n'ont qu'à autoriser l'utilisation de la force militaire. Mais il a aussi rappelé que au-delà de Daesh, c'est l'instabilité de certains pays, au Moyen-Orient surtout, qui pourraient devenir eux-mêmes des bouillons de culture pour des mouvements terroristes. Et aussi, il a parlé des famines ou des guerres civiles qui pourraient causer des vagues de réfugiés aux portes des États-Unis ou même aux portes de l'Europe. Il a aussi rappelé que les États-Unis ne pouvaient pas aller occuper n'importe tout pays ou être le gendarme du monde. Il a invité à une interaction entre toutes les forces internationales pour pouvoir faire quelque chose. Il a donné comme exemple le nucléaire iranien. Il n'a jamais caché sa volonté de fermer Guantanamo. Mais personnellement, je doute qu'il puisse faire quelque chose dans cette année qui lui reste.
Émile Baroudi, journaliste basé dans la capitale américaine.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Aujourd'hui, plusieurs missions en Afrique sont qualifiées d'échecs alors que les allégations de viol se multiplient contre des casques bleus. Mais Hervé Latsou, le patron de ce département, est d'avis que beaucoup d'Africains ont retrouvé grâce aux Nations Unies la perspective d'une vie meilleure. Qu'en pensez-vous? Les missions de paix onusiennes ont-elles encore leur légitimité en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Cap sur le Burkina Faso. La composition du nouveau gouvernement a été rendue publique ce mercredi. Cette équipe post-transition compte 29 membres, dont 7 femmes. Le Premier ministre Paul Kabatieba lui a donné combat comme nom de baptême. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wonogo.
C'est tôt ce mercredi matin que les Burkinabés ont découvert la composition des membres du gouvernement Paul Kabatieba, du nom du Premier ministre. Il dit ici les grands axes d'orientation de son équipe.
C'est d'abord des patriotes. Ce sont des patriotes. C'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement d'engagement. Pourquoi? C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice. C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays.
Sur les 29 membres du gouvernement, on dénombre 7 femmes, ce qui n'atteint pas le pourcentage souhaité par les femmes. Le Premier ministre fait ici un aveu entre ses ambitions d'avoir plus de femmes ministres et la réalité à laquelle il s'est confronté. Suivant.
Notre souhait était de porter le niveau de représentation des femmes dans ce gouvernement à un seuil d'à peu près 30%. C'était notre ambition. Mais après les tractations que j'ai eu à faire, j'ai dû réviser mes ambitions un peu à la baisse, parce que je me suis rendu compte que les vocations au niveau de nos sœurs femmes, en tout cas, il y a des progrès à faire en termes de vocation dans ce domaine-là. Et ça n'a pas été facile pour moi de trouver des vocations. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver des vocations chez les femmes. Mais ça ne me décourage pas. Et nous allons continuer à poursuivre nos efforts pour faire en sorte que la représentation des femmes au sein du gouvernement ou des gouvernements prochains, en tout cas, soit plus élevée.
Le nom de baptême du gouvernement est Combat. Alors, qu'en pensent les Burkinabés? Suivons ce vox pop.
Ça ressemble à un gouvernement de combat. Je ne vais pas porter de jugement pour le moment. Des discours, c'est bien. Les actes, c'est mieux et on préfère attendre les actes pour apporter des jugements.
On ose espérer que c'est vraiment une rupture avec les gouvernements précédents, surtout les gouvernements du régime Compaoré. Et nous voyons surtout qu'il y a eu cette tendance à vouloir diminuer le nombre de portefeuilles. On a seulement espoir que ce gouvernement-là est conscient qu'il n'est pas un gouvernement comme les autres et qu'il est très attendu sur le terrain.
On espère que quand il a dit combat, on sentira vraiment le combat dans leurs actions, dans tout ce qu'ils feront, ils auront amené comme action sur le terrain. On espère tout simplement qu'ils vont faire de bonnes choses et qu'ils vont travailler en tout cas à satisfaire la population et que bon, on va les souhaiter, bon, on va y attendre de voir s'il y aura un changement.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et nous partons maintenant au Togo où se tient la semaine des réussites diaspora. Il faut dire que les Togolais vivant en dehors du pays sont estimés à 2 millions. Compte tenu de leur impact sur le développement du pays, le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a décidé de leur accorder une attention particulière. Écoutons le reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Les réussites diaspora sont des distinctions honorifiques pour primer le travail de la diaspora togolaise. Pour cette première édition, 7 lauréats ont été récompensés sur 2 principaux critères, le parcours et la réalisation. Safi Ouradi, président du jury des réussites diaspora.
En ce qui concerne le volet qu'on a qualifié de parcours, l'élément important c'était la capacité managériale. Pour qu'on puisse s'assurer que la personne, en termes de compétences, a une capacité à porter un projet de bout en bout. Donc ça, c'est un critère important. Pour le volet réalisation, ce qu'on a regardé comme critère déterminant, c'est de savoir la capacité, quand on démarre un projet, à le mener à terme et à le faire durer dans le temps, à le faire perdurer. La pérennité du projet était un critère important en ce qui concerne les réalisations qui sont faites par les lauréats.
Claude Gouineski, cofondateur du groupe médiatique Trace, lauréat de la catégorie médias et technologies, souhaite que l'initiative soit prise sous le signe du transfert de connaissances. Au départ, c'était 6 personnes qui devaient être distinguées, mais la catégorie jeunes à fort potentiel a été spécialement créée par le jury pour honorer le travail du cancérologue Dr Tiatou Souho. Réussite diaspora est loin d'être une incitation à l'immigration, en quoi Safi Ouradi, spécialiste migration et diaspora.
L'idée, c'est de voir comment maintenant, une fois qu'on a mis à l'honneur ces personnes, ces profils, ces particularités dans la démarche professionnelle, comment on peut réussir à partir de là à faire des projets au Togo, à les faire venir accompagner des projets au Togo, réaliser des projets au Togo. Et là, le ministère a créé un outil pour ça qui s'appelle le Club de la Diaspora. Parce que l'objectif, c'est que les gens qui font des choses extraordinaires et formidables à l'étranger puissent en faire autant dans notre pays et faire bénéficier au pays en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois, parce que c'est ça l'enjeu.
Pour le représentant résident de la Banque africaine de développement au Togo, le projet doit permettre de canaliser le flux financier de la diaspora dans des secteurs productifs. Nous écoutons Serge Nguessan.
La diaspora togolaise transfère en moyenne 150 milliards par an. Mais nous avons aussi remarqué qu'il y a à peu près 1 à 2% de ces ressources qui sont investies dans des projets productifs. Donc il va falloir amener la diaspora togolaise à faire des projets structurants qui peut aider à transformer l'économie togolaise.
Kailosson Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, la musique n'est plus ce qu'elle était jadis. Beaucoup d'Africains ont dansé sur les rythmes d'orchestres maliens comme Balima, les ambassadeurs ou l'ensemble instrumental. Les personnes d'une certaine génération sur le continent se rappellent encore. Rendez-vous ce soir chez Fatima.
Alors, j'ai failli dire rendez-vous ce soir chez Morgane.
Chez Fatimata.
Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les orchestres maliens, Morgane, sont en difficulté. Et ces orchestres risquent même de disparaître.
Pour faire un état des lieux, Idriss Fall a joint à Bamako Madame Barima Kouyaté, directrice du Ballet National du Mali.
Les orchestres n'ont pas disparu, mais quand même, c'est pas comme avant. Parce que autant des semaines de la jeunesse, autant Modibo, les régions venaient pour les semaines de la jeunesse et chaque région avait son orchestre. Après, Modibo, c'était Moussa, c'était le Biennale, les régions encore avaient leur orchestre. À ce moment-là, les gens avaient l'amour du travail. Les jeunes travaillaient sans demander de l'argent, ils avaient l'amour du fait de travailler. Mais actuellement, on ne peut pas appeler un enfant de venir travailler sans qu'il ne demande de l'argent.
Il y avait le Kananga de Mopti, il y avait le super Biton de Ségou.
Il y avait le Biton pour la région de Ségou. Caï, c'était le Ségou. Bamako, c'était le district de Bamako. Mopti, Kananga, Agao, comment on appelle, Asia Diazou. Et communément jeune, je ne rappelle plus encore des noms des orchestres-là. Les jeunes avaient l'amour de ce travail-là. Quand on parlait de Biennale ou de Semaine de la Jeunesse, tous les jeunes avaient la curiosité de venir découvrir le Bamako. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Les enfants sont tentés par l'argent, maintenant ils ne demandent que de l'argent. Donc les anciens qui faisaient ce travail-là, il y a beaucoup qui sont décédés, d'autres sont partis en retraite. Maintenant, la relève avec la génération actuelle-là, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi les orchestres maintenant ont tendance à disparaître un peu.
Mais le ministère de la Culture?
Oui, le ministère de la Culture fait de son mieux. Il fait de son mieux, hein. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas le même talent que ceux d'avant. Quand on prend Harouna Barry, il avait l'amour de ce travail. Il cherchait, il passait des nuits à réfléchir. Maintenant, la jeunesse, ce n'est pas la même chose. La jeunesse a tendance à démissionner. On peut plus mettre la main sur les enfants. Et quand on voit les ballets maliens, l'enfant malien ne veut plus danser. Sauf quelques-uns qui sont là-bas, les anciens maintenant. Si ils passent à la retraite, mon vieux, on se demande que faire. Donc aussi les ballets aussi vont disparaître.
Mais c'est dommage pour la culture malienne, alors que la musique est un élément qui contribue à la paix.
Nous n'avons rien chez nous ici. Nous n'avons pas de mer, on n'a rien. On ne peut que se baser sur notre culture. Si on ne fait pas le mieux, mon vieux, avec la génération actuelle-là, les orchestres, la salle instrumentale, les ballets massaraques, ça va disparaître.
Voilà, c'était Madame Barima Kouyaté, directrice du Ballet National du Mali.
C'est ainsi qu'on termine cette édition. On remercie Georges Léonard Sagnot qui a assuré la production ce soir, assisté de M. Cauchès à la console. Présentation chez Robin Dorsil et Morgane Guiriac.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions, pourquoi pas. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.